Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant le journal de Christophe Lamarre. On parlera bien sûr du coup d'envoi de l'Euro de foot qui sera donné tout à l'heure à Rome avec le match d'ouverture Turquie-Italie avant l'entrée en lice des Bleus mardi à Munich contre l'Allemagne.
Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu.
L'hymne des Bleus pour 7 euros. J'espère que vous avez préparé les maillots, hein, parce que nous, Européens, on est prêts. Hein. Toute l'équipe des sports sera là tous les soirs dès 20h pour vous faire vivre l'événement avec tous les matchs en direct. Et ça commencera même dès 19h15 ce soir en guise d'amuse-bouche avec mes invités, notamment la consultante d'Européens, Aline Riera, ancienne internationale. On va chauffer la salle, c'est promis. Et puis à 19h40, service Pioline, votre rendez-vous en direct de Roland-Garros, Européens Radio officiel de cette quinzaine qui touche à sa fin. Ça, c'est pour tout à l'heure. D'abord, le journal. Le point sur l'info avec vous, Christophe Lamarre. Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 19h.
C'est parti pour un mois de football. L'Euro commence ce soir. Italie-Turquie à 21h. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal.
Un match qui sera aussi un événement pour Stéphanie Frappard. La Française a été désignée quatrième arbitre. C'est une première dans un championnat d'Europe.
Le procès d'un féminicide emblématique à Bastia. L'ex-compagnon de Julie Douib assume le meurtre mais nie toute préméditation.
En Algérie, des élections législatives sous haute tension. Le pouvoir en place cherche une nouvelle légitimité. Mais les Algériens ne se font plus beaucoup d'illusions.
Un Roland-Garros, qualification du grec Tsitsipas pour la finale. On attend maintenant le duel Nadal-Djokovic.
La météo, Anissa Haddadi, journée estivale demain, presque pour tout le monde.
Oui, c'est au bord de la Manche, Isabelle, de la Bretagne aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie, que le ciel sera un petit peu plus couvert, pas de pluie, mais de la grisaille et des températures plus fraîches. Ailleurs, c'est l'été, un soleil radieux avec des températures qui s'envolent demain sur la moitié sud.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Allez, c'est parti pour un mois de football, un championnat d'Europe hors normes imaginé par Michel Platini lorsqu'il était encore président de l'UEFA. Imaginez un peu, des matchs semés un peu partout sur le continent. La compétition va se dérouler dans 11 pays différents.
Et honneur aux Italiens ce soir qui affrontent la Turquie en match d'ouverture à Rome. Simon Rubin, vous êtes notre envoyé spécial. Qui dit match d'ouverture dit cérémonie d'ouverture. Donnez-nous le programme de la soirée, Simon.
Eh bien, qui dit Covid dit forcément cérémonie raccourcie. Alors, on aura de la musique avec notamment Andrea Bocelli qui va venir chanter. Idole italienne, évidemment. On aura des chorégraphies à la fois sur la pelouse, sur le toit du stade. La patrouille de l'armée de l'air italienne va sillonner le ciel de Rome également. Et puis, une grande nouveauté, un concert virtuel du chanteur de U2 Bono qui sera alors là, virtuellement. Je vous cite quand même le programme de l'UEFA parce que ça fait rêver. Des champs d'énergie seront créés à partir de millions de particules de lumière et Bono sera projeté sur la scène. Alors, est-ce que ça préfigure l'avenir des cérémonies de ce genre ou est-ce que c'est un accessoire dispensable? On verra. En tout cas, dans les tribunes, 16 000 personnes. Et contrairement, vous vous souvenez peut-être des images au dernier match des Bleus au Stade de France, là, le public est très dispersé dans toute l'enceinte. Voilà, le décor est planté. On attend les joueurs pour l'échauffement.
Merci beaucoup, Simon Rubin. Vous avez de la chance de vivre ça en direct. Envoyé spécial à Rome, Turquie-Italie. Le coup d'envoi, c'est à 21h. C'est un match que l'on va suivre en direct sur Europe 1. Vous savez que c'est une soirée, un spécial championnat d'Europe dès 19h15, hein, ça commence tout à l'heure avec notre grand débat. Et puis bien sûr, à partir de 20h, on va prolonger toute la soirée pour cet événement avec effectivement ce match d'ouverture.
Et ce match, justement, sera aussi l'occasion de saluer une grande première dans cet Euro. Le quatrième arbitre, celui, vous savez, appelé à remplacer l'arbitre titulaire en cas de blessure, c'est déjà arrivé hein, dans un match de foot. Et bien ce quatrième arbitre ce soir, ce sera une femme. La Française Stéphanie Frappard y voit beaucoup plus qu'un symbole.
Ça veut dire que l'arbitrage est reconnu déjà, l'arbitrage français est reconnu, et que ça veut dire que voilà, on a des beaux parcours et qu'on montre que voilà, il n'y a pas que le foot français qui est au haut de l'affiche, mais aussi l'arbitrage. Donc c'est vrai que c'est une belle reconnaissance pour l'ensemble du football français. Pour moi, c'est une super expérience, une belle étape pour l'avenir. Et je le prends vraiment comme une vraie belle expérience pour moi.
Voilà l'arbitre Stéphanie Frappard au micro européen de Julien Froment.
Et puis cette information sur le foot, mais là côté droit télé, c'est un véritable coup de tonnerre hein, dans ces droits télé. Amazon diffusera l'essentiel de la Ligue 1 jusqu'en 2024. Ça n'a pas du tout plu à Canal+, qui annonce ce soir qu'il se retire de la Ligue 1. Il ne diffusera pas la saison 2021-2022.
Effectivement. effectivement, c'est un coup de tonnerre dans le foot. 19h04, au Mali, on a appris ce soir que l'armée française avait abattu le responsable de l'enlèvement et de l'assassinat des journalistes de RFI.
Oui, nos deux confrères avaient été enlevés puis tués en novembre 2013. Et alors qu'Emmanuel Macron a annoncé son souhait de mettre un terme à l'opération Barkhane, eh bien ce sont ces mêmes militaires français qui ont permis l'identification et la neutralisation de ce groupe terroriste responsable de la mort des deux journalistes. Les précisions de la ministre de la Défense, Florence Parly.
Dans la journée du 5 juin, les militaires de Barkhane ont détecté la préparation d'une attaque terroriste à Aguelok, dans le nord du Mali. Cette opération a conduit à éliminer 4 terroristes. Parmi eux, Baye Ag Bakabo, cadre d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et responsable du rapt de nos concitoyens. Cette opération est le reflet de la priorité de la France au Sahel. Combattre et faire tomber les chefs des groupes terroristes qui sévissent dans la région, ceux qui se réclament d'Al-Qaïda et de Daesh. Pour la sécurité des Français et pour la sécurité des Européens, nous resterons engagés au Sahel.
La ministre de la Défense, Florence Parly, avec Aude Leroy.
Aux assises de Haute-Corse, à Bastia, deuxième jour du procès de Bruno Garcia, accusé de féminicide sur son ex-compagne.
Oui, un procès hautement symbolique, hein, puisque la mort de Julie Douib est à l'origine du Grenelle sur les violences conjugales. Il a permis également la libération de la parole. Et cet après-midi, son ex-compagnon a donc été interrogé pour la première fois à l'audience et il a maintenu sa version. Il n'a pas prémédité l'assassinat de son ex-compagne Marion Debreuil.
Oui, Bruno Garcia ne parvient même pas à admettre qu'il a tiré sur Julie Douib chez elle ce dimanche matin. Elle s'est jetée sur le canon de mon arme et ça a tiré. Pourquoi vous la suivez sur le balcon, lui demande la présidente. Je ne sais pas, la panique. Pourquoi vous tirez une deuxième fois? Pourquoi ne pas avoir prévenu les secours? Et toujours la même réponse de l'accusé. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas monté pour la tuer, l'interroge l'avocate générale. Non, je ne suis pas monté pour ça. Je voulais discuter des petits, répond l'accusé. Vous êtes resté 3 minutes en tout dans l'appartement et vous nous dites que vous avez discuté. Julie est assise par terre et vous la menacez avec une arme. La magistrate mime le geste. Est-ce que vous croyez qu'une discussion loyale sur la garde des enfants est possible dans ces conditions? On ne parlait pas que de ça, répond Bruno Garcia. On parlait aussi de Sébastien. C'était lui la raison de nos disputes. Il s'agit du nouveau petit copain de Julie. Mais vous étiez séparés depuis 5 mois, monsieur Garcia, le reprend la magistrate. Quand vous avez tiré, vous avez pensé à quelque chose d'autre qu'à vous-même? À mes enfants, répond l'accusé. La magistrate s'étrangle. Vous nous dites que quand vous avez tiré sur la mère de vos enfants, c'est à vos enfants que vous avez pensé. Il répète, tout s'est passé très vite.
Marion Dubreuil qui suit ce procès très symbolique, très fort en Haute-Corse pour Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal et l'Algérie sous très haute tension à la veille des législatives.
Et puis Roland Garros, Tsitsipas est en finale en attendant Nadal ou Djokovic.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
19h08, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1. Et en Algérie, c'est tout un pays qui est sous tension actuellement à la veille des élections législatives.
Les arrestations se multiplient. Hier soir, le régime a interpellé plusieurs opposants, dont l'une des figures du mouvement contestataire du Irak, dont le journaliste Khaled Darreni, ancien correspondant d'Europe 1. Un vague de répression qui inquiète. Mathieu Bock, vous êtes notre envoyé spécial sur place. On n'a pas l'impression que cette vague pourrait pousser les Algériens malgré tout à aller voter.
Oui, il y a bien quelques affiches de candidats collées sur les murs blancs de la ville, mais il y a eu très peu de meetings. Pendant cette campagne, les salles étaient parfois quasiment vides. Les habitants que j'ai rencontrés, comme Samir, un jeune chômeur de 24 ans, voient même ces élections comme un monde étranger au sien.
J'ai jamais voté, je voterai jamais. Pourquoi ? Parce que on n'est personne. On ne connaît personne, ni le député, ni le groupe. Il y a une Algérie qui marche avec un système et le peuple avec un autre système. Voilà, c'est deux choses différentes. Et c'est comme ça. C'est comme ça l'Algérie, ça a été depuis toujours et ça restera depuis. Inch'Allah, ça ne va pas rester longtemps comme ça, mais c'est ça.
Dans les quartiers plus populaires, en banlieue d'Alger, là aussi les élections ne semblent concerner personne. Ali accepte de nous lâcher quelques mots en français pour nous dire qu'il n'attend qu'une seule chose aujourd'hui.
Travail. Depuis 20 ans, depuis Bouteflika, rien que change. Il n'y a pas l'homme que je veux. Il n'y a pas l'homme que je veux. Parce qu'ils ne font rien, comme les autres.
Le principal enjeu de ces élections sera donc le taux de participation. Il y a 4 ans, lors des précédentes législatives, il avait été de 35%, mais il pourrait être plus bas cette fois-ci, puisque depuis, la déception de la reprise en main du Irak par le pouvoir est passée par là.
Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 en Algérie, pour suivre ces élections, bien sûr.
La Chine poursuit son offensive contre les crypto-monnaies.
L'opération s'appelait carte coupée. Un millier de personnes soupçonnées d'appartenir au grand banditisme ont été interpellées. Pékin les accuse de se servir des crypto-monnaies comme le bitcoin par exemple pour blanchir de l'argent sale. Ces arrestations entrent en réalité dans le cadre d'une vaste campagne de reprise en main des cryptos, le régime étant sur le point lui-même de lancer sa propre monnaie numérique.
Allez, on prend tout de suite la direction de Roland Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Avec la qualification de Stefanos Tsitsipas en 5 manches face à Alexander Zverev, ça c'était la première demi-finale, il reste la deuxième et forcément la dernière. Elle oppose en ce moment Rafael Nadal à Novak Djokovic, Axel May.
Oui, Rafael Nadal avec un t-shirt jaune fluo, Novak Djokovic en rouge. Le match vient à l'instant de commencer. C'est Nadal qui a remporté la mise en jeu lorsqu'il y a du tirage au sort et qui a donc servi pour la première fois 15 partout. Mais là, le match, je vous le disais, vient à l'instant de commencer. Le public a crié Rafa, Rafa. On a moins entendu de Nolé le surnom de Djokovic. Le vainqueur, effectivement, rencontrera Tsitsipas. Et quand même, je veux vous dire qu'on a vu Stefanos Tsitsipas en larmes à l'issue de son match remporté en 5-7 et 3h37 face à Sacha Zverev, l'Allemand. Il a dit « Je donne plaisir à la Grèce, je représente la Grèce » et il y avait la fierté de celui qui gagne pour un peuple dans les larmes de Tsitsipas qui atteint donc pour la première fois la finale de Roland-Garros en attendant donc Nadal Djokovic, 30-15 sur le service de Nadal pour l'Espagnol.
Axel May en direct de Roland-Garros.
Europe 1,
radio officielle de Roland Garros.
Et c'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup, Christophe. Anissa Haddadi, je sais que vous êtes triste pour Zverev, mais bon, c'est
très
un autre
triste.
Sujet.
C'est
demain,
pas grave.
La
L'année
météo.
Prochaine.
Demain, la journée en tout cas sera chaude sur la moitié sud.
Oui, voire même très chaude, avec 12 à 23 degrés demain matin. Nous aurons 12 degrés à Aurillac, 15 à Paris et Metz, 18 degrés déjà à Strasbourg, 19 à Lyon et 23 à Perpignan. Ça, c'est pour le matin. Dans l'après-midi, le thermomètre s'envole, surtout sur la moitié sud, vous le disiez, Isabelle. 35 pour Avignon et Nîmes, 34 degrés à Perpignan, 32 à Toulouse, 31 degrés à Grenoble et Limoges, 30 du côté de Tours, 29 à Clermont-Ferrand, 28 degrés à Paris, 27 pour Ajaccio, 26 à Nice, 25 à Biarritz. Et alors dans le nord-ouest, il fera bien plus frais, 23 à Brest et 19 pour Saint-Brieuc. Alors en fait, pour vous résumer la journée demain, il fera beau partout, sauf sur les côtes de la Manche. Donc de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France en passant par la Normandie, on aura un temps un petit peu plus couvert avec des brumes matinales. Dans l'après-midi, ces nuages bas vont se dissiper, mais le ciel reste un petit peu plus couvert sur cette partie-là du pays qu'ailleurs. Ailleurs, c'est vraiment l'été.
Un peu moins chaud, un peu plus facile à supporter sur les bords
ça
de la Manche.
Ça sera plus
aussi.
Facile à supporter, en effet.
Merci beaucoup Anissa, on vous souhaite un excellent week-end.
À lundi.
Europe 1, Isabelle Millet.
À 19h13, dans un instant, votre grand débat sur Europe 1. Installez-vous confortablement. L'euro commence ce soir et cette année, on a tout sur le papier. En tout cas, on a vraiment tout pour faire un beau parcours. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h16, c'est l'heure de votre grand débat du Club des Idées sur Europe 1. Et ça y est, c'est parti, c'est presque parti pour l'euro. Celui qu'on appelle encore l'euro 2020, décalé d'un an pour cause de pandémie. Match d'ouverture ce soir, Turquie-Italie, à Rome. Les rencontres vont se dérouler jusqu'au 11 juillet dans plusieurs pays. C'est à Munich, mardi, qu'aura lieu l'entrée en lice de nos Bleus. L'Allemagne, premier adversaire dans le groupe F. Alors tout au long de cet euro, votre radio Europe 1 vous fera vivre chaque soir dès 20h les temps forts, les matchs en direct, les commentaires, les analyses des plus grands spécialistes. Mais nous, ce soir, on va prendre un petit peu d'avance. On va se poser quelques minutes ensemble pour faire monter un peu la pression, pour vous mettre en appétit. On est tous à fond, bien sûr, derrière nos Bleus, on y croit, mais est-ce qu'on ne s'emballe pas un peu trop en disant que la France est favorite? On n'a pas envie de se faire peur ce soir, au contraire. On va essayer de se rassurer avec vous, Aline Riera, ancienne internationale de l'équipe de France et consultante foot d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Jean-François Pérez, bien sûr, chef du service des sports d'Europe 1. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir, chers
et
amis.
Javier Prieto Santos, rédacteur en chef de Foot. Merci à tous les trois de m'accompagner pour ce débat. Bonsoir Javier. Avant la grande soirée foot qui sera animée par Lionel Rousseau. Alors on dit beaucoup, trop peut-être que les Bleus sont favoris de ce championnat d'Europe. Je vais vous demander si vous êtes d'accord, mais d'abord je voudrais qu'on écoute ensemble ce qu'en pensent ces supporters interrogés par Louise Lebras.
Moi je vois deux possibilités. Soit ils échouent dès les poules. S'ils passent les poules, ils vont au bout, ils sont champions d'Europe.
Il y a l'Italie, il y a les Pays-Bas, il y a l'Angleterre, mais je pense que la France peut largement gagner. Ouais.
À chaque fois qu'on dit qu'ils vont gagner haut la main, ça se finit mal. Donc je vais pas dire haut la main, mais je pense qu'ils ont leur chance quand même.
On a une équipe très complète, je pense qu'on peut aller très très loin dans cette compétition. J'espère qu'on va pas se brûler les ailes très rapidement, sachant qu'on est dans un groupe qu'on peut dire le groupe de la mort.
Je pense que la Coupe d'Europe, c'est quand même un niveau nettement supérieur à la Coupe du Monde, mais je pense qu'on a toutes nos chances. Vive les Bleus.
Bon, les Bleus favoris, est-ce que tout le monde autour de la table est d'accord avec ça, Aline Riera?
Bah, favori, quand on est vice-champion d'Europe et champion du monde en titre, on ne peut qu'être dans les favoris, donc je suis assez d'accord avec ça.
Jean-François Pérez.
Bah, le champion du monde est forcément favori du championnat d'Europe, d'autant que l'équipe de France offre des garanties dans toutes les lignes, gardien de but, défenseur, milieu de terrain, des attaquants que le monde nous envie. Donc oui, après le problème maintenant, c'est qu'il va falloir assumer ce statut, et ça c'est un autre problème.
Oui, on va en parler. Javier Prieto Santos, pareil.
Oui, avec l'Angleterre. Je trouve qu'ils ont une très bonne équipe aussi, donc, mais après... En France, on a Mbappé, comme vient de le dire Jean-François. Il y a une ligne d'attaque de feu, des défenseurs assez solides, un milieu de terrain. Moi, c'est le milieu de terrain qui me préoccupe un petit peu plus, mais ça devrait le faire.
Il y a Kanté quand même en milieu de terrain.
Oui, il y a Kanté, mais bon, même si
et Rabiot.
Court beaucoup.
Et Rabiot.
Pogba, Rabiot n'ont pas fait des super saisons, je trouve. Et donc voilà, c'est la petite incertitude qu'il y a, mais leurs matchs amicaux ont été plutôt rassurants, je trouve.
Et Pogba, il était bon sur le dernier match, non ?
Oui, Pogba est toujours bon avec les Bleus. C'est un soldat Didier Deschamps. Mais c'est vrai que voilà, si je devais mettre un petit bubble, ce serait sur le milieu de terrain, je trouve.
Bien. En tout cas, cette position de favori, est-ce que c'est de nature à mettre une pression supplémentaire à l'Inriera ?
Une pression positive, certainement. Ils se savent attendus dans un groupe extrêmement relevé. Donc voilà, c'est une pression dont on a besoin quand on est joueur. On a besoin de se sentir concerné, d'avoir des gros matchs d'entrée. On sera tout de suite dans le vif du sujet avec ce match contre l'Allemagne. Maintenant, voilà, ils ont un statut à faire valoir. On est champion du monde en titre. Donc forcément, toutes les équipes ont envie de battre l'équipe de France. Mais ça reste une pression qui doit être positive et qui doit les emmener très loin.
Notre correspondante en Allemagne, Hélène Kohl, sur Europe 1 ce matin, nous disait que la presse allemande s'inquiète beaucoup de cette équipe de France. Il y a un magazine qui écrit « Voilà une équipe qui transforme toutes les autres en Calimero. » Car oui, c'est trop injuste une équipe aussi bonne, Jean-François Pérez.
ils sont un peu confus, les Allemands, parce que l'Allemagne a souvent été la tourmentrice de l'équipe de France pendant très très longtemps. C'est un peu moins vrai depuis quelques années. Mais cette équipe de France, forcément, elle fait peur, non seulement parce qu'elle est championne du monde, mais aussi parce que c'est la plus régulière, sans doute, depuis que Didier Deschamps en est le sélectionneur. Quart de finaliste en 2014 de la Coupe du Monde, vice-championne d'Europe en 2016, championne du monde en 2018. Donc on sait, en gros, maintenant, on a une espèce de certitude que cette équipe va au moins se hisser dans le top 8 ou le top 4 à chaque fois. Donc les Allemands, qui sont en pleine reconstruction là depuis quelques temps, on va dire que peut-être que cette Euro arrive à un moment un peu charnière pour eux. Mais sur les derniers matchs, et notamment le dernier qu'on a pu voir contre la Lettonie, même si la Lettonie n'est pas une référence du foot international, les Allemands ont fait un festival offensif qui nous laisse augurer d'un Allemagne-France mardi qui sera quand même très serré.
Ouais, très chaud. Je ne sais pas si vous croyez aux statistiques, mais il y a des chercheurs en mathématiques, belges, autrichiens, norvégiens, allemands, qui ont calculé les chances de victoire des pays engagés à l'Euro. C'est la France qui a le plus de chances, mathématiquement, donc de soulever le trophée le 11 juillet. 14,8% devant l'Angleterre. Vous nous disiez de faire attention à l'Angleterre, hein, Javier Prieto Santos, devant l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et la Belgique. D'abord, est-ce qu'il est crédible ce classement et est-ce que vous croyez aux statistiques, Aline Réa ?
Moi, je trouve que la Belgique est un peu loin. C'est une équipe qui se cherche et qui a besoin d'un titre depuis longtemps. Ils ont été très bougons après la demi-finale du championnat du monde. Et c'est vrai que ce qu'ils ont proposé, c'était très intéressant. Ils ont eu une campagne de qualification assez intéressante. Donc, je trouve qu'on les met un petit peu bas. J'ai aussi vu les matchs amicaux du Portugal qui étaient assez intéressants. L'Allemagne qui est en reconstruction, qui en passe suite à la Lettonie. Donc, voilà, il y a plein de choses. Ça va se jouer à pas grand-chose. Ça va se jouer à certains faits de jeu. Ça va se jouer à la capacité de se projeter un peu plus loin que les poules. Mais il y a beaucoup d'équipes. Il peut y avoir une surprise aussi, hein, à l'image de la Grèce qui avait pu remporter le tournoi alors qu'on ne les attendait pas du tout. Donc,
j'espère qu'il n'y aura pas de Grèce. Hein, parce
non,
que,
non, j'espère pas, mais pourquoi pas une petite surprise.
C'était un support.
La Grèce n'est pas là cette année. La Grèce avait gagné en 2004 l'Euro au Portugal. En revanche, cette année, on a une nouvelle nation. C'est la Macédoine du Nord qui entretient des relations très compliquées avec la Grèce.
Ouais. Ça serait quand même une immense surprise, la Macédoine du Nord. Là,
oui, hein, non, je ne pense pas. Ce serait déjà une immense surprise qu'elle passe le premier tour.
Bon. Mais
en effet, le gagnant de l'Euro change souvent. Mm-hmm. Voilà, sur une quinzaine d'éditions, il y a dû avoir une dizaine de vainqueurs. Donc c'est une compétition qui ne se gagne pas aussi souvent, aussi facilement.
Alors vous parliez de l'Angleterre tout à l'heure, Javier Prieto Santos. L'Angleterre qui sera favorisée car les trois matchs de poule se jouent à Londres, c'est ça,
et
les demi-finales et la finale. C'est un avantage ça pour...
C'est toujours un avantage de jouer devant son public. Et en plus, encore une fois, ils ont une très belle génération. Heureusement pour nous, les Français, ils ont un coach qui est pas aussi fort que Didier Deschamps et c'est un peu le
bas blesse,
en fait, pour eux. Donc Gareth Southgate, c'est pas Deschamps. Je trouve qu'il est il y a mieux en fait. Donc voilà, mais pour revenir aux mathématiques et pour revenir à ce qu'a dit Jean-François, dans le foot, les mathématiques ça compte pas, on peut perdre sur un CSC et l'Euro et la compétition.
Contre son camp.
Ouais, contre son camp, et l'Euro se jouera sur des détails, c'est la compétition la plus relevée du monde, en tout cas en football de nation. Donc
les ordinateurs qui font des simulations, ça ne veut rien dire.
Ouais, j'aime pas trop, moi. J'étais nul en maths, donc je laisse ça aux Autrichiens et aux Suisses, qui, avec leurs machines extraordinaires.
En tout cas, il y a eu des précédents où on était favoris. On a très vite déchanté. En 2002, en Corée, on est parti la fleur au fusil. On avait gagné la Coupe du Monde en 98. On avait été champion d'Europe en 2000, c'est ça. Il y avait même des campagnes de pub avec déjà les deux étoiles sur le maillot. Et puis bon, on n'a pas gagné un match, on n'a pas mis un but. Alors qu'on avait dans notre équipe des super joueurs. On avait le meilleur buteur du championnat anglais, Thierry Henry, le meilleur buteur du championnat italien, Trezeguet, le meilleur buteur du championnat français, Djibril Cissé.
Absolument.
Donc voilà, ça rend modeste.
Je peux d'autant plus facilement vous en parler que j'y étais.
Oui.
Et j'avais assisté à cette explosion en plein vol sur le continent asiatique où l'équipe de France était arrivée un petit peu comme celle-ci, en rockstar. Zidane était arrivé en hélicoptère. Enfin, il y avait un...
Ah oui,
c'était extrêmement impressionnant la façon dont l'équipe de France avait préparé cette Coupe du Monde. Zidane est arrivé, s'était blessé un petit, juste avant la compétition. Il y avait un feuilleton, il y avait un suspense, mais tout le monde était persuadé que la France, dans un groupe qui comprenait quand même le Sénégal et le Danemark et l'Uruguay, allait se balader.
Nez, ouais.
Et en effet, vous l'avez dit, Isabelle, zéro but, un doute qui s'immisce très vite dans les esprits. Et ça, il va falloir faire très attention dans les jours qui viennent, parce que ça peut aller très vite dans une compétition où on joue tous les 4 jours. Si jamais l'équipe de France rate son entrée, parce qu'on est un petit peu spécialiste de ce genre de choses, si jamais l'équipe de France rate son entrée dans la compétition contre l'Allemagne, le chrono va tourner beaucoup plus vite, il va falloir marquer vite, il va falloir remporter des points le plus vite possible, et ça, on n'est pas forcément extrêmement doué pour ça. Donc attention à ce premier match.
On perd facilement la confiance, c'est ça.
Bah, en tout cas, en 2002, c'est ce qui s'était passé.
Ouais. Est-ce que c'est pas un peu un mal français de se voir trop beau, trop tôt, non, Aline Riera?
Bon, je pense pas. Ça faisait 20 ans qu'on attendait un titre. C'est une équipe qui se construit. On est dans la continuité de quelque chose. On est avec Didier Deschamps encore une fois depuis 2012. Donc, il y a quand même des signaux qui sont au vert, des entraînements qui sont très studieux. C'est une équipe de France très appliquée. On l'a vu durant les entraînements. Ils se sont remis au travail. Il a fallu régénérer tout le monde. Mais dans ce qu'on voit en conférence de presse et dans ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut entendre, ça reste des joueurs qui savent qu'ils sont dans un groupe très relevé, que le premier match peut être déjà décisif. Donc voilà, je pense pas qu'on se voit trop beau. On a, faut le dire, on a une attaque de feu, mais peut-être il faut aussi que les ballons arrivent. Ça reste avant tout un collectif.
Bon, on va en parler de ça, c'est promis. Allez, on poursuit ce débat dans un tout petit instant. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Et les discussions sont animées ici en studio. Il faut le comprendre, c'est le coup d'envoi de l'Euro de foot ce soir. On est à fond sur Europe 1.
Ah oui.
Le premier match des Bleus, surtout Jean-François Pérez. Le premier match des Bleus, ce sera mardi. Bleu comme la couleur d'Europe 1 qui vous fera vivre cet événement tous les soirs à partir de 20h. Et nous, on prend un petit peu d'avance avec Aline Riera, ancienne internationale de l'équipe de France et notre consultante foot sur Europe 1. Jean-François Pérez, donc, chef du service des sports, et Javier Prieto Santos, rédacteur en chef de SoFoot. La France, favorite de cet Euro. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il fallait quand même rester très prudent. D'autant qu'on a un groupe difficile quand même. On n'a pas encore parlé de notre groupe, mais on ouvre le bal face à l'Allemagne. Ensuite, on aura la Hongrie, le Portugal. Est-ce qu'on risque pas de laisser un peu des forces dans cette première partie, Javier Prieto Santos?
Bah, c'est un peu le groupe de la mort. Bon, après, la Hongrie, c'est pas une référence dans le foot international, mais il faut s'en méfier.
Plus maintenant.
Plus maintenant,
longtemps,
parce qu'il y a 50 ans, oui, c'était...
Vous voyez que je suis quand même, je suis pas spécialiste.
Oui, mais... vous êtes arrivé, c'est super. Et non, l'Allemagne, c'est toujours dangereux. Le Portugal est un autre favori de la compétition. Donc oui, il va falloir démarrer très très fort, parce que comme l'a dit Jean-François Pérez, on n'est pas du tout humble. Et si on fait si on démarre par une contre-performance, après il va falloir cravacher très très dur. Et peut-être qu'on va y laisser un peu de gomme. Donc il faut que les Bleus fassent un très bon match contre l'Allemagne. Ça va les rassurer, ça va les lancer. Et voilà, mais l'Allemagne aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a 4 ans. Elle est en reconstruction et je pense que ces Bleus-là peuvent faire un bon résultat. Mais après... On sait pas, on verra. Il y a un carton rouge, une VAR, une ligne, un arbitre mal luné, et puis voilà, ça peut tout changer.
Démarrer pied au plancher, c'est pas forcément notre spécialité. C'est vrai qu'on a souvent vécu des débuts un petit peu poussifs dans les compétitions à l'INRIRA.
Oui, alors je me souviens du match de la Roumanie en ouverture de l'Euro 2016 où c'était un but de Payet dans les toutes dernières minutes. Mais aujourd'hui, on démarre contre l'Allemagne. On a un statut à faire valoir, une équipe très concernée avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs. Donc on doit, même si c'est une équipe d'Allemagne en reconstruction, c'est toujours un duel très acharné entre ces deux nations. Si on démarre bien l'Euro, et bien ce sera un bon match et on démarrera sur des bonnes bases. Après, même s'il y a une mauvaise performance, il restera deux matchs derrière. Il faut savoir que les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés aussi. C'est vrai qu'il y aura un gros match derrière, mais on peut aussi se rater sur le premier match. Ça existe, ça arrive, mais ce ne sera pas fini pour autant.
Aline
a raison de souligner ça, parce qu'en 2016, le Portugal devient champion d'Europe après avoir fait un début de compétition cataclysmique, et personne ne voyait le Portugal à la fin du premier tour soulever le trophée.
Ouais,
donc c'est possible.
Il me semble qu'ils peuvent se faire sortir les Portugais. Alors,
ah oui, ça se joue.
Ils passent à se jouer rien du tout en 8e, je crois.
Déjà joué contre la Hongrie, ça s'était joué face à la Hongrie.
Exactement, ça s'était joué pas grand-chose. Qui n'avait pas de sens. Pour commencer.
Après, c'est très difficile dans un groupe comme celui de la France où il y a beaucoup de grosses nations de finir dans les meilleurs. Il y a les quatre meilleurs troisièmes qui se qualifient.
Il faudrait quand même y aller pour ne pas être qualifié dans les. Non ?
Je sais pas, c'est des grosses nations, donc elles vont tous. Le niveau de jeu sera assez égal. Il ne va pas y avoir des scores fleuves, il ne va pas y avoir des. Enfin bon, je trouve qu'il ne faut pas jouer la troisième place, il faut vraiment jouer la première parce que c'est.
Toujours, de toute façon. Et toujours, là, on va jouer deux matchs contre les pays hôtes, face à l'Allemagne et face à la Hongrie. On sera à Munich, on sera à Budapest. Ouais. C'est peut-être aussi un inconvénient, ça, non ? Un handicap ?
Oui, d'un autre côté, c'est bien parce qu'on sera dans le bain de la compétition et de la haute compétition tout de suite. On va retrouver des stades avec beaucoup d'ambiance. En Allemagne d'abord, avec une jauge à peu près, je crois, à moitié là-bas, du stade à Munich, mais ça fera déjà beaucoup de bruit. Et puis à
Budapest, ça va être plein, ouais.
Contre l'adversaire présumé le plus faible, mais qui sera soutenu par 70 000 personnes. Et vous connaissez l'état assez négatif des relations entre la Hongrie et l'Europe de l'Ouest à l'heure actuelle. Ce sera plus qu'un match de foot pour eux. Ouais. Et je pense vraiment que la fédération hongroise va remonter les joueurs à bloc pour leur dire qu'ils représentent une nation qui a beaucoup de choses à défendre et à prouver sur cet Euro. Donc ça sera un match piège, il va falloir faire très attention. Je les ai vus jouer plusieurs fois les Hongrois ces derniers mois. Ils ne vont pas prendre 4 ou 5 buts, quoi. Voilà, il ne faut pas s'imaginer ça. Ça sera peut-être une petite victoire pour l'équipe de France, mais ça sera un match difficile. Et puis derrière, il y a le Portugal que la France a battu 1-0 à Lisbonne il y a quelques mois, mais qui a une équipe peut-être, j'allais dire, dans la quantité de l'effectif peut être plus complète que l'équipe de France, plus homogène. Il y a moins de talents fulgurants, mais il y a peut-être plus d'homogénéité.
Ils jouent mieux ensemble.
Dans l'effectif portugais. Voilà. Donc les deux équipes se tiennent à pas grand-chose.
Après, les Portugais, c'est des très très gros compétiteurs. Les matchs amicaux, ça les intéresse pas. Plus c'est dur, et mieux ils jouent. Donc pour eux, je trouve que c'est un groupe idéal. L'Allemagne, la France, ça leur fait pas peur, et c'est vraiment des très très gros compétiteurs. En tout cas, c'est comme ça que je les vois, et c'est comme ça qu'ils ont remporté aussi l'Euro 2016. Dès qu'ils sont face à une montagne, ils sont hyper contents.
Alors on a eu deux matchs de préparation qu'on a suivis bien sûr sur Europe 1. Vous les avez trouvés convaincants, les Bleus, Aline Riera?
Oui, alors j'ai trouvé, on était sur le premier match, le Pays de Galles, on était vraiment sur une semaine de travail physique intense, donc peut-être avec un peu moins de jus et un petit peu moins à l'aise, mais on était vraiment dans la grosse part de préparation. Ensuite, voilà, il y a des choses qui se mettent en place contre la Bulgarie. On a senti offensivement, il y a eu quand même pas mal d'occasions, notamment sur la première mi-temps.
Ils étaient assez détendus et ils avaient une.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Je les ai trouvés assez frais, je les ai trouvés concernés, très concentrés, rigoureux au départ, dans la rigueur tactique notamment. Et puis, voilà, moi j'ai trouvé que Antoine Griezmann, Paul Pogba, ces leaders prenaient de plus en plus de place. Et voilà, je les ai trouvés prêts, collectivement armés et vraiment surtout très concernés, même si ce n'était que la Bulgarie et qu'un match de préparation. Voilà, c'était dans l'idée de travail et j'ai trouvé ces matchs-là assez intéressants.
Jean-François Pérez, la chance de la France, c'est qu'on a non seulement des excellents titulaires, on a aussi des excellents remplaçants.
Oui, disons que, étant donné que depuis le début de la crise du Covid, le nombre de remplacements autorisés est passé de 3 à 5. Je pense que c'est d'ailleurs une règle qui va se pérenniser dans les semaines ou les mois qui viennent parce que ça arrange tout le monde. La France, en effet, peut faire entrer des joueurs susceptibles de faire basculer le match. On pense évidemment à Ousmane Dembélé, le joueur du FC Barcelone, qui est un grand dribbleur. On pense à Kingsley Coman, qui est un petit peu son pendant du Bayern Bayern Munich. Donc on a deux dribbleurs, deux finisseurs, deux dynamiteurs de défense, on va dire. Et puis au milieu de terrain, on peut mettre du physique éventuellement quand ça ne va pas. On a en effet du Corentin Tolisso, toujours du Bayern. On a du Sissoko qui à chaque fois fait sourire parce qu'on dit encore Moussa Sissoko, c'est pas possible. À chaque fois il est là, mais n'empêche qu'il rend toujours service. Donc il y a à la fois des superstars, il y a des vedettes, il y a des faiseurs de jeu et puis il y a des grognards. Voilà. Et l'équilibre de l'équipe de Didier Deschamps, c'est fait comme ça. Il faut quand même féliciter Deschamps d'être là depuis aussi longtemps et d'arriver à avoir maintenu cet équilibre-là. Équilibre qui est peut-être un petit peu mis à mal depuis quelques jours. Ça, on va peut-être en parler. Le principal danger sera là. Mais jusqu'à présent, en tout cas, il a très bien su manager ses hommes.
Oui, même Benzema.
Bon, vous voulez qu'on parle de ça tout de suite ?
Allez, rapidement.
Alors, Benzema, c'est un joueur formidable.
C'est un non-événement, Benzema, c'est ce qu'il a pas dire.
Oui, c'est le plus gros mensonge de l'année.
Est-ce que son moral, il n'en a pas pris un coup de voir qu'il sort et que Giroud marque deux buts, est-ce qu'au contraire,
symbole,
ça peut lui donner des envies de revanche, quoi.
Ça a été une espèce de symbole. Je pense qu'on a tous un petit peu souri parce qu'on imaginait que c'était possible, en tout cas. Voilà. Alors, Benzema qui revient en équipe de France, ça a été la grande nouvelle quasiment du mois de mai. Hein. C'est un joueur qui fait mieux jouer les Bleus. C'est plus fluide, c'est plus esthétique, c'est plus. Mais c'est autre chose. Ça perturbe l'équilibre offensif de l'équipe. Jusqu'à présent, c'était moins spectaculaire, mais le fait est que c'était efficace. Et la preuve, quand Benzema sort et que Giroud entre, au final, ça fait 3-0 et Giroud marque deux buts. Donc oui, en effet, attention à cet équilibre-là. J'aurais bien aimé que Benzema marque dans ces matchs de préparation, histoire de faire taire un petit peu cet éventuel débat qui couve,
bien
malgré
sûr.
Tout.
Non, mais c'est la preuve qu'ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait le travail de sape, et puis derrière, hein, qui
bon,
finit. Ne les opposons pas systématiquement.
Bon, malheureusement, on va devoir s'arrêter là, mais vous savez que la soirée foot continue
déjà
jusqu'au bout de la nuit.
Ah oui, 23h30,
c'est ça, Jean-François, ouais. Donc, le coup d'envoi, c'est ce soir. Un événement dont vous ne raterez rien grâce à Europe 1.
Tous les soirs.
Tous les soirs.
30
hein,
jours.
Voilà.
C'est parti.
30 soirées exceptionnelles, les invités de marque, etc. Lionel Rousseau, qu'on va retrouver tout à l'heure à 20h, bien sûr, pour le match d'ouverture. Allez, les Bleus.
Service Pioline sur Europe 1. Votre rendez-vous Roland-Garros, Isabelle Millet.
Bonsoir Cédric Pioline.
Bonsoir.
Notre consultant, bien sûr, pour cette quinzaine à Roland-Garros. Et bonsoir à notre spécialiste tennis, bien sûr, Corinne Boulou, tous deux présents dans le studio Europe 1. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes avec Johanna Chabas, évidemment, comme tous les soirs, qui nous fera découvrir un aspect méconnu hein, de ce tournoi. Alors Corinne, c'est un carré d'as hein, aujourd'hui à Roland-Garros. La demi-finale Nadal-Djokovic est en cours, vous allez nous en parler, mais nous avons le nom du premier finaliste. Et j'adore parce que vous l'avez mis en phonétique sur ma feuille. Stéphanos Tsitsipas, le grec.
Oui. Le Grec s'offre à 22 ans une première finale en Grand Chelem après avoir éliminé au forceps le numéro 6 mondial, l'Allemand Alexander Zverev, en 5-7 et 3h37 de jeu. Le score 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3. Mais avant de vous parler du scénario de cette première demi-finale, on file sur le court Philippe Châtrier où Axel May suit cette 9e confrontation à Roland-Garros entre le tenant du titre Rafael Nadal et le finaliste de l'an passé Novak Djokovic, le numéro 1 mondial. Et Axel, j'ai l'impression que le scénario du début de finale de l'an passé est en train de se reproduire.
Ah oui, il y a eu un jeu qui a été très disputé, le premier jeu avec Nadal au service. Il a même failli se faire briquer d'entrée. Et puis, Rafael Nadal fait du grand. Rafael Nadal, il récupère toutes les balles et il est mené 5-0 Djokovic, 5-0, il n'est pas loin de la bulle hein, du 6-0, c'est lui qui va être au service pour tenter de revenir à 5-1, mais là c'est vraiment un match à sens unique avec encore une fois un Rafael Nadal qui fait parler toute sa science du court central porte d'Auteuil.
Merci Axel May. Cédric Pioline, votre avis d'abord sur ce Nadal Djokovic qui a commencé donc il y a une demi-heure environ et qui complétera l'affiche de la finale dimanche.
Bah écoutez, il est certain que Nadal est le grand favori de ce match puisque il mène, c'est le roi ici, incontesté, incontestable. Donc après, je suis un petit peu surpris que de ce début de match où ça c'est un début de match à sens unique. J'espère que ça va se lancer, mais bon, je pense que Nadal devrait passer en 3 ou en 4-7 maximum.
Bien, parlez-nous Corinne de cette première demi-finale hein, qu'on a suivie tout à l'heure sur Europe 1, qui a vu le Grec Tsitsipas se qualifier pour sa première finale en Grand Chelem à 22 ans.
Un match de très haut niveau, Isabelle, pour une opposition qui sera amenée à se répéter hein, dans les prochains mois, dans les prochaines années, entre deux jeunes, la Next Gen, on les a appelés, et ça y est, ils arrivent au plus haut niveau. Et on a assisté à de superbes séquences de jeu entre ces deux joueurs. Et finalement, c'est le Grec qui s'impose, mais ça n'a pas été évident. Hein. Il a fallu qu'il l'a cherché sa finale, parce que on le pense à 6-3, en mesure d'aller rapidement chercher cette première finale en Grand Chelem dont il rêvait depuis quelques années. Et puis, révolte d'Alexander Zverev qui montre toute sa puissance avec un service au-delà de 200 km/h. Il est même allé à 216 km/h sur un de ses engagements et qui revient et qui recolle le score 6-4, 6-4. Et là, on se dit, le cinquième set, ça va être bouillant. Et effectivement, le public s'est régalé et c'est finalement Stefano Tsitsipas. Après que Alexander Zverev a réussi à effacer 4 balles de match sur son service, c'est Tsitsipas qui réussit sur son engagement eh bien, à l'emporter en 3h37. Et moi, je vous propose d'écouter la réaction, enfin justement les premiers mots de Stefano Tsitsipas sur le court, très ému. Il était en pleurs à ce moment-là.
You know, all I can think of is my roots, where I came from. I came from a really small place outside Athens. My dream was to play here. My dream was to play in the big stage of the French Open one day. I would have never thought that I would.
Comme vous pouvez le voir, bien évidemment, une émotion immense pour Stefanos aujourd'hui. Il est quasiment en pleurs au moment de vous répondre. Il a essayé de se souvenir d'où il venait lorsqu'il a joué ce match. Ses racines, il a puisé son énergie là-dedans aujourd'hui. Mais ce moment incroyable de pouvoir accéder enfin à sa première finale à un tournoi du Grand Chelem, il l'a vécu devant vous et ça, c'est extrêmement particulier.
C'est vrai qu'il était très ému et très émouvant, hein, Stefanos Tsitsipas. Cédric Pioline, c'est une victoire méritée quand même, après une belle saison déjà du Grec sur terre battue. Il est allé la chercher, hein, cette finale.
Oui, complètement. Ça a été un match magnifique, comme vient de le dire Corinne. En fait, le match, il s'est joué un petit peu au début du cinquième set, lorsque Tsitsipas a eu 0-40 sur son service et qu'il a remporté ce jeu-là. Il a breaké quasiment dans la foulée et puis il a tenu jusqu'au bout. Mais il donne le sentiment qu'il est en mission, qu'il est habité, que je sais pas, il y a quelque chose qui est écrit déjà. Alors je ne sais pas si dimanche il s'imposera contre Nadal ou contre Djokovic, mais en tout cas il est certain qu'il se rapproche de plus en plus de ce but ultime qui est de gagner un grand chelem. Donc si ça n'arrive pas dimanche, ça arrivera à mon avis dans l'année qui vient ou les deux ans qui arrivent sans problème.
Voilà, mais c'est vrai que c'était vraiment un très très beau spectacle pour tous les spectateurs qui ont pu en profiter et qui sont là encore dans cette deuxième demi-finale entre Nadal et Djokovic. Un mot pour terminer cette première partie sur la finale junior garçon de Roland-Garros, Isabelle, qui opposera demain deux Français de 17 ans, Arthur Fils à Lucas Van Hache. Et l'un des deux, donc, sera le futur gagnant de ce tournoi junior.
Et vous suivrez ça, bien sûr, pour nous, Corinne. On se retrouve dans un tout petit instant pour la deuxième manche de ce service Pioline sur Europe 1. Tout de suite.
Cédric Pioline,
Isabelle Millet,
Roland-Garros 2021,
Europe 1, radio officielle.
Service Pioline, toujours en direct de Roland-Garros, deuxième partie, avec dans un instant l'œil de Johanna Chabas sur les à côté du tournoi, la question poil à gratter à Cédric Pioline. Mais d'abord, Corinne Boulou, je crois que vous avez une petite info insolite.
Oui, saviez-vous que qu'une finale dame de Roland-Garros n'a pas duré plus de 37 minutes ? En 1988, la finale oppose l'Allemande Steffi Graf à la Biélorusse Natasha Zvereva. Sacrée un an plus tôt championne junior porte d'Auteuil, Zvereva se propulse en finale du haut de ses 17 ans après avoir éliminé sur son passage Martina Navratilova notamment. Mais elle va vivre un véritable cauchemar en finale. Steffi Graf s'impose 6-0 en 37 minutes sous les yeux de spectateurs médusés. L'humiliation est telle d'ailleurs que la pauvre Natasha Zvereva sera dispensée de discours lors de la remise des prix. Chez les hommes, la finale la plus courte s'est disputée en 1977. Elle est remportée par Guillermo Vilas. L'Argentin s'impose en 3-7 face à l'Américain Brian Gottfried. 6-0, 6-3, 6-0. Et l'an passé, en finale, Rafael Nadal avait aussi infligé au premier set un 6-0 au numéro 1 mondial Novak Djokovic.
Bien, merci Corinne. Cédric Pioline, demain, ce sera la finale dames et la gestion des émotions sera sans doute un élément très important de ce match entre deux jeunes femmes qui n'ont jamais disputé de finale en Grand Chelem. C'est vraiment un territoire inconnu pour elles.
Oui, complètement, une zone inconnue. On a vu lors des deux demi-finales, d'ailleurs, des deux gagnantes, que ça avait été très compliqué émotionnellement, que forcément, donc comme elles sont pas habituées, leur maîtrise tennistique, et ben c'est un petit peu dégradé, on va dire ça comme ça. Et donc dans une finale, je dirais que c'est encore un petit peu plus puissant, puisque on voit d'ailleurs dans la tribune présidentielle la coupe pour la gagnante qui est exposée. D'ailleurs depuis cette année, ils les mettent dès les demi-finales, ce que je trouve très bien. Et oui, il va y avoir vraiment.
Ça rajoute du stress.
Ouais, mais oui, exactement. Mais en fait, l'enjeu est là, on le sait, et il faut arriver à gérer ça. Donc, ça sera peut-être celle, je dirais, qui va le mieux gérer ses émotions, tout ce qui lui passe par la tête.
Bien. Changement de côté, comme tous les soirs, le regard de Johanna Chabas sur Roland-Garros. Bonsoir, Johanna.
Bonsoir.
Vous vous êtes intéressée, Johanna, aujourd'hui à une bizarrerie, on va dire, des spectateurs au pied du court châtrier où se déroulent les demi-finales qui assistent au match devant un grand écran.
Oui, ils sont seulement à quelques mètres de là où tout se passe, mais faute de place ou de moyens, ils ne peuvent pas profiter des gradins du court central. Des centaines de spectateurs malchanceux sont devant cet écran gigantesque posé juste à côté du châtrier. Ils sont dans des transats, certains ont déplacé les bancs du stade pour être placés bien en face de l'écran. Ils applaudissent les joueurs, les beaux points, mais un peu naïvement, j'avais du mal à comprendre pourquoi ils faisaient ça. Pour moi, autant regarder le match chez soi si c'est pour le voir sur un écran. Mais pour Vincent et Charlotte, passionné de tennis, l'ambiance de Roland-Garros vaut le coup, même s'il ne voit pas le match en vrai.
Là, il y a la ferveur, il y a tout le monde qui applaudit, alors que chez vous, tout seul sur votre canapé, vous avez un peu l'air d'un con d'applaudir, alors que là, il nous manque plus que le sprint et on est bien, quoi.
Même si on n'est pas véritablement sur le châtrier, on vit quand même les matchs de l'extérieur assez intensément. On entend même des fois les joueurs, il faut vraiment bien qu'ils crient, mais on les entend bien. Mais voilà, regardez, on vit en même temps, on applaudit, c'est tout comme si on était devant le châtrier.
Sur un transat, c'est pas mal quand même, Johanna. Surtout qu'il y a de l'ambiance à l'extérieur, effectivement, du court châtrier. Mais quand même, il y en a qui continuent d'avoir secrètement l'espoir de pouvoir rentrer, de pouvoir récupérer un précieux sésame.
Oui, rien qu'aujourd'hui, j'ai 4 personnes qui m'ont demandé si, en tant que journaliste, je pouvais leur passer des places ou même leur donner mon accréditation pour qu'ils puissent aller voir le match. D'autres, comme Mireille, ont une autre technique, récupérer les billets des personnes qui quittent le court central.
Ah, on n'a pas dit notre dernier mot, on se met devant une porte et puis les gens qui sortent, on leur demande s'ils s'en vont et si on peut échanger nos tickets. C'est aussi simple que ça. Ça nous est déjà arrivé, c'est un petit bonus.
Elle est donc en ce moment même en train d'attendre. Elle espère voir au moins un set de cette magnifique dernière demi-finale.
Cédric Pioline, merci Johanna. Cédric Pioline, j'imagine que vous avez eu des demandes, vous aussi, pour obtenir des places, pour voir les meilleurs sur les cours.
Ah oui, beaucoup de demandes, non seulement alors de... Pas vraiment dans les allées comme Johanna, mais comme on dit, on a les amis du mois de mai.
Et voilà, c'est ça. Et maintenant, Corinne Boulou, l'instant poil à gratter. C'est à vous de jouer, Corinne, pour la question piège à Cédric Pioline, comme tous les soirs.
Oui, pourquoi n'y a-t-il pas de hockey d'assistance vidéo à Roland-Garros? C'est vrai que l'assistance vidéo mise en place à partir de 2006 sur le circuit existe dans les autres grands chelems, mais pas à Roland-Garros. Sur terre battue, la direction du tournoi estime que la marque est suffisamment claire pour ne pas avoir recours à la vidéo, puis ça coûte moins cher sans doute, et donc elle préfère faire confiance aux juges de ligne et juges de chaise. Cela n'empêche pas les contestations, comme vous l'entendez peut-être derrière moi. Alexander Zverev, non, on n'a pas le son, voilà. Alexander Zverev, furieux. Voilà, carrément.
Il est en colère.
Il est très en colère dans le troisième set contre une décision de l'arbitre qui donne bonne une balle que lui jugeait faute. Il y avait eu déjà des contestations d'ailleurs hier lors de la deuxième finale dames.
Alors Cédric Pioline, demi-finale, oui. Cédric Pioline, assistance vidéo ou pas?
C'est un grand débat, comme vient de le dire Corinne. Tout d'abord, ça a un coût parce que c'est à peu près entre 40 et 50 000 euros par cours. Donc évidemment, pour l'équité, on peut se dire que il faut équiper l'ensemble des cours parce qu'il n'y a pas de raison que celui qui joue sur un cours annexe n'ait pas recours à cette assistance vidéo alors qu'ils l'ont sur les courts principaux. Et puis après, après c'est vrai que bon, on est dans l'interprétation humaine d'une marque sur terre battue, de se dire, alors c'est souvent les arbitres, ils sont là en train de dire oui, mais comme la balle allait arriver de telle manière, donc ça a laissé une trace. Tu vois, il y a un espace entre la ligne et la trace, donc elle est faute, mais là elle a accroché. Donc il arrive effectivement que un joueur et un arbitre ne soient pas d'accord, ce qui peut créer un petit peu de tension, comme on a pu l'entendre avec Zverev. Moi je suis assez pour vu que la terre battue est une surface où vraiment ça laisse des traces, des marques, pour le laisser de cette manière, parce que c'est beaucoup plus humain et ça fait un peu partie du jeu. Alors c'est vrai que parfois ça va contre le joueur. Mais c'est quand même mieux, je pense.
Bon, allez, pas de contestation pour le moment entre Nadal et Djokovic. Djokovic qui s'est un peu repris, Axel May, alors que Nadal a servi hein, il y a quelques instants pour le gain du premier set.
Exactement, on s'était quitté à 5-0 pour Nadal avec Djokovic au service. Il a remporté son service et ensuite il a réussi à prendre le service de Rafael Nadal. Il est donc mené toujours, mais seulement 5-2, et c'est lui qui est au service pour tenter de revenir à 5-3 alors qu'on joue depuis 46 minutes dans cette partie avec des coups droits surpuissants de part et d'autre.
Merci en tout cas, merci à tous les quatre, Cédric Pioline, Corinne Boulou, Axel May et Johanna Chabas. On vous retrouvera demain, même lieu, même heure sur Europe 1. Bonne soirée à vous.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel de l'actu avec Sophie Tussaud. Et puis, on continue notre soirée sport, grande soirée sport avec le coup d'envoi de l'Euro. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Isabelle.
Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, mais j'ai chauffé la salle. Hein.
J'ai tout entendu, je vous félicite et je vous imagine déjà avec le maillot de l'équipe de France pour le match contre l'Allemagne. Mais ce soir, il faudra choisir entre Turquie ou Italie pour le match d'ouverture. Ce sera à suivre sur Europe 1, bien sûr. Dans notre grande soirée, on sera là tous les soirs, hein, 20h, 23h30 avec un dispositif exceptionnel. Et ce soir, eh bien, Lynn Riera, Giroud, Jimmy Algerino, Jean-François Pérez seront avec nous, Simon Rubin à Rome. Et puis Philippe Mexès, l'ancien joueur d'Auxerre notamment et qui a porté le maillot de l'équipe de France, à notre invité VIP. Il y en aura un tous les soirs. Joli programme, Isabelle.
Ah, effectivement, très joli programme. Très belle émission à vous, Lionel. Bonne soirée. Très belle soirée à tous. Lundi dès 18h, vous retrouverez Julien Bugier. D'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr.